Moon Paris Saint-Germain. Il est midi 10 à Paris. Fin de ce journal. Dans un
autre... Midi 10 à Bordeaux également. Merci beaucoup à RFI pour ce journal. Vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles du Globe Théâtre, notre théâtre de quartier, et de ses événements à venir. On dira un mot de l'Union européenne et sa construction vue depuis l'Est de l'Europe avec un journaliste roumain. Et puis en fin d'émission, les clés des libertés nous seront données par la libre pensée de Gironde. Enfin, à 13h, Acétone, l'actu décapé par les chômeurs et les précaires. Ce sera une rediffusion de février dernier. On commence tout d'abord avec quelques infos. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
À l'Université de Lille, une conférence sur la Palestine donnée par Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon a été annulée.
L'établissement avance qu'il ne pourrait pas garantir la sérénité des débats. Et cette conférence devait avoir lieu aujourd'hui et était organisée à l'initiative d'une organisation étudiante. Une organisation étudiante dont le logo figure sur l'affiche de l'événement. Et elle est accusée de, je cite, « nier l'existence de l'État d'Israël », ce que les organisateurs et organisatrices démentent. Dans un communiqué, la France Insoumise affirme, je cite, « Nous ne nous tairons pas. La conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan se tiendra à Lille ce jeudi 18 avril. La communication sur le nouveau lieu sera envoyée aux inscrits et aux inscrites. LFI dénonce de la censure et une attaque à la liberté d'expression. Le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, a dénoncé sur X, je cite, « Nous regrettons la décision de la présidence de l'université qui se montre incapable de résister aux pressions qui s'attaquent à la liberté d'expression, mettent à mal les libertés universitaires et académiques et visent à faire taire les voix de la paix au Proche-Orient. » Le patron de LR, Éric Ciotti, a lui dénoncé une provocation qui attise un conflit et l'importe sur le territoire national et salué une annulation devenue indispensable à ses yeux. De son côté, le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, du groupe RN, avait affirmé, je cite, que des propos antisémites seraient probablement tenus à cette occasion. La cause de ces accusations, le logo de l'association. Sur celui-ci figure un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et l'association précise que « nous avons simplement mobilisé une carte qui représente une région du monde traversée par un processus de colonisation indéniable et dont la définition des frontières est un enjeu de lutte non stabilisée », ajoutant n'avoir jamais promu la haine ou proféré de propos antisémites.
De nouvelles aides vont être mises en place, on revient en Gironde, pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon.
Oui, le 4 avril, des mesures avaient déjà été annoncées par le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville. Ces mesures de soutien interviennent après un contexte économique douloureux pour les ostréiculteurs et ostréicultrices du bassin d'Arcachon, qui se sont vus interdire la vente des huîtres pendant les fêtes de fin d'année, période charnière pour ces professionnels. Et en cause, la pollution des eaux du bassin d'Arcachon due à un neurovirus. Cette crise avait engendré environ 7 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires pour les ostréiculteurs et ostréicultrices du bassin d'Arcachon, ainsi que la diminution de moitié du nombre d'huîtres achetées. Dans un communiqué, le gouvernement a confirmé et précisé les mesures annoncées. Parmi celles-ci, une relance de la consommation à hauteur de 500 000 euros qui vont être investis pour soutenir la communication de crise de la filière. Les ostréiculteurs et ostréicultrices vont être exonérés à hauteur de 90% des redevances domaniales et des travaux d'urgence d'assainissement vont être mis en place. Des ostréiculteurs et ostréicultrices en difficulté financière pourront également bénéficier d'un rééchelonnement de leurs dettes grâce à des paiements différés ou à des prêts à taux préférentiels. Et 10 millions d'euros seront également investis dans un contrat au climat pour une gestion efficace des eaux de l'amont à l'aval du bassin d'Arcachon. Et enfin, le communiqué précise que des aides supplémentaires de la Commission européenne sont à l'étude.
Ce soir, à la salle Saumenu, c'est dans le quartier Saint-Michel, il y aura une soirée concert-meeting organisée par le NPA.
Oui, une soirée concert pour, je cite, « un monde sans frontières ni patrons ». À l'approche des élections européennes, le nouveau parti anticapitaliste vient affirmer sa participation. Le parti dénonce, je cite, « la période actuelle où les idées d'extrême droite montent et que l'exploitation d'une majorité par une minorité ne cesse de nous opprimer. Nous participons à ces élections pour y faire entendre une voix qui se bat pour l'émancipation des travailleurs et des travailleuses. » Au programme, il y aura des temps musicaux, des interventions politiques, une tombola, une bouquinerie et de quoi se restaurer. Et donc ça se passe à la salle de la Saumenude, au 16 rue Saumenude à Bordeaux, et les entrées sont à partir de 5 euros.
Et il s'agit bien du NPA, l'une des deux fractions du NPA depuis, qui se sont divisées depuis quelques années maintenant, celle sans Poutou et Besancenot, mais qui n'est pas moins intéressante à écouter quand même. Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations, et on va enchaîner tout de suite avec un agenda culturel de ce qui va se passer cette fin de semaine à Bordeaux avec toi Louise, bonjour.
Bonjour.
Tu es notre stagiaire cette semaine à la Clé des Ondes. Et qu'est-ce que tu nous as sélectionné dans ton agenda ?
Alors pour commencer, aura lieu sur tout le week-end la 19e édition de la fête du jardin et de la nature, organisée par la ville de Pessac et l'association Écocite de Bourgail. Ce rendez-vous convivial ouvert à tous réunit chaque année un grand nombre de passionnés du jardin et de la nature. Vous pourrez y faire le plein de bons conseils, de produits utiles à l'entretien de votre jardin ou encore rencontrer des producteurs locaux. Et ça, ça aura lieu ce samedi 20 et dimanche 21 avril à la forêt de Bourgail. Ensuite, samedi à 14h au sud de Bordeaux, aura lieu un appel à la mobilisation girondine face aux lignes à grande vitesse du sud-ouest français lors du rassemblement de la Grande Vadrouille. L'occasion de se rencontrer et de s'informer au sujet des enjeux de la GPSO dans une ambiance ludique, musicale et festive puisque concerts, jeux, stands d'infos, rire et bonne humeur seront au rendez-vous. Ça se passe samedi à 14h et le lieu exact du rassemblement sera communiqué ultérieurement.
Alors il a été communiqué entre-temps, ce sera à la gare de Cadojac à 14h.
Super. C'est super. Pour continuer, grâce aux réparateurs bénévoles du Repère Café Bordeaux, vous pourrez enfin redonner vie à vos petits électroménagers et à vos appareils électriques. Ils vous attendront samedi dans les locaux du Fab Lab de Cap Science, situé au hangar 20 de 14h à 18h. Toujours dans l'agenda du week-end, aura lieu samedi soir à l'occasion de l'inauguration du nouveau local de l'association des Médusines, une soirée dansante, la Nuit des Méduses. Une association née d'une volonté de rassembler la scène féminine artistique à Bordeaux. Venez donc nombreux et nombreuses pour danser au fil des concerts samedi à partir de 20h jusqu'à 1h15 à la brasserie du Vieux-Port. Et pour finir, dimanche, à l'occasion du match UBB-Clermont, au stade Chaban-Delmas, aura lieu une collecte alimentaire du Secours Populaire Gironde. Des bénévoles vous y attendront de 19h à 21h à l'extérieur du stade. Les produits alimentaires recommandés sont des conserves de la mer, des conserves de légumes ou encore des biscuits secs.
Merci beaucoup Louise pour cet agenda. Alors justement, tu as dit un mot de cet événement, cette mobilisation contre la LGV et les LGV du Sud-Ouest, la Grande Vadrouille qui aura lieu ce samedi. Il y avait une réunion d'information mardi soir et c'est Sylvie de l'émission Climat de lutte qui y était et qui nous envoie cette petite présentation. On écoute tout de suite donc l'une des militantes qui était présente à cette réunion d'information, c'est Toupi. On écoute tout de suite.
Alors, donc ça s'appelle la Grande Vadrouille. C'est prévu le début à 14h à la gare de Cadojac. Donc les gens peuvent arriver directement en TER à cette gare. Et à 14h, entre 14h et 15h30, il y aura des prises de parole. Les collectifs seront présents. Il y aura des stands. Il y aura un point d'accueil. Pas mal de petites choses à ce moment-là. Et vraiment, le départ de la marche se fera à 15h30. Et l'idée, c'est d'aller dans Cadojac, de visibiliser les maisons qui sont détruites à cause des LGV, du coup. Et en particulier, des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Et donc, on va marcher comme ça dans Cadojac en faisant deux points d'arrêt. Un premier point d'arrêt devant, justement, des maisons détruites. Et un deuxième qui sera plus une perspective naturaliste sur l'environnement qui, du coup, va être détruit à cause des LGV. Ça jusqu'à à peu près 17h et à 17h, il y a plutôt une partie festive qui s'engage sur le reste de la journée avec de la musique, de la fanfare, des jeux, des activités qui sont prévues, notamment des activités de fabrication de panneaux, des choses comme ça qu'on envisage. Et c'est surtout bonus qui a été finalisé hier justement, qui serait que le soir on prévoit des concerts, enfin une partie plutôt festive dans un terrain qui est privé, qu'on nous a confirmé récemment, et donc du coup les gens peuvent rester la soirée, en tout cas on encourage à ça, et ça va être plutôt festif, voilà.
Alors c'est une journée donc à l'initiative de tous les collectifs anti-LGV.
Alors on On est membre de différents collectifs qui font partie d'une coordination qui s'appelle LGV No Merci, qui est une coordination de différents collectifs effectivement en lutte contre les LGV qui sont à travers tous les départements de Nouvelle-Aquitaine, donc les 5 départements. Et ces collectifs-là se réunissent régulièrement et quand on se réunit justement, on propose des idées de rassemblements, d'événements, de manifestations, enfin toutes sortes de mobilisations. Et c'est lors de ces échanges-là qu'on s'est dit qu'on pouvait faire ça collectivement et qu'on invitait du coup tous les collectifs à soutenir, à rejoindre et à organiser. Donc du coup, il y a un peu des membres de toute cette coordination-là.
Il y a eu des maisons détruites depuis la dernière opération qu'on avait faite justement à la gare de Cadojac. Il y en a eu une nouvelle détruite.
Oui, en fait, ils ont réagi très très vite. Donc suite à la dernière action qui était un dimanche, je crois le lundi ou en tout cas quelques jours après, il y avait effectivement déjà des périmètres délimités autour des maisons pour effectivement nous empêcher de revenir ou nous empêcher de faire quoi que ce soit d'autre qu'ils pourraient imaginer. Et donc on a vu que oui, les promoteurs du projet sont très réactifs, font un peu attention à ce qui se passe là-bas parce qu'ils savent que c'est un terrain chaud, que les gens sont contre ce projet et qu'ils se mobilisent. Et donc du coup, effectivement, on sait très très bien que on fait pas ça pour rien, quoi.
Oui, ils veulent vous gagner de vitesse, nous gagner de vitesse. Et du côté national, au niveau des grandes décisions macroniennes sur justement ces grands projets, là, on assiste à une accélération. En tous les cas, la LGV fait partie, dans le GPSO, fait partie des projets pour lesquels le zéro artificialisation net n'est pas compté.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est sorti médiatiquement au niveau national cette semaine, enfin la semaine passée, alors qu'on entendait très peu parler de ce projet. Là, tout d'un coup, il est pointé du doigt parce que justement, il déroge à cette loi zéro artificialisation nette. Et il y a deux choses à ce propos. La première, c'est que c'est du coup un des plus gros projets d'infrastructure de France. Enfin, en termes d'artificialisation, le chiffre de 4800 hectares de terre en voie d'artificialisation du coup à cause de ce projet est quand même colossal et énorme. Et quand on voit la carte de la France et qu'on voit le point qui correspond à ce projet, il est... Enfin, vraiment, c'est un des plus gros projets de France. Et donc, ça confirme ce qu'on disait depuis quelques temps. La deuxième chose, par contre, et c'est un petit peu... Enfin, ça nous indigne, nous, en tant que collectif en lutte depuis longtemps, c'est qu'on voit que le président de région, Alain Rousset, qui a déclaré, du coup, l'artificialisation pour rentrer dans les quotas nationaux, il a déclaré seulement 700 hectares d'artificialisation pour ce projet, ce qui est absolument catastrophique, puisque c'est mensonger, en fait. Nous, on a pu démontrer...
700 hectares, c'est les voies.
Et oui, lui, il compte que l'emprise de la voie, sachant qu'on a démontré et que c'est écrit noir sur blanc dans l'enquête publique, qu'il faut compter bien d'autres choses que la simple plateforme pour une ligne à grande vitesse. Il y a tous les terrassements autour, les ouvertures de carrières qui sont nécessaires pour du coup acheminer et approvisionner en matériaux ce chantier. Il y a tous les aménagements autour des gares, il y a les déplacements de voirie, les zones de basse travaux, de basse maintenance, etc., qui sont tous qui s'additionnent en fait les unes par-dessus les autres. En termes de bilan d'artificialisation, c'est absolument colossal.
Donc l'idée d'y être le plus nombreux possible samedi 20 avril à Cadojac, gare de Cadojac, à partir de 14h.
Oui, c'est ça. Rendez-vous à 14h à partir à la gare de Cadojac et après on bougera un petit peu dans Cadojac.
Merci Gabrielle.
Voilà, merci à Sylvie pour ce petit son du côté de l'opposition à OLGV. 12h23 sur la Clé des Ondes, c'est le plat de résistance et on accueille ce midi une voisine de la Clé des Ondes du Globe Théâtre situé à 2 rues d'ici, rue Joséphine. Bonjour Cassandre Nebo.
Salut Baptiste.
Tu es chargée des relations avec les personnes au Globe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu fais ?
Ouais, moi je me charge en fait de mettre en place et de coordonner les projets et notamment les actions de médiation artistique et culturelle en lien avec notre programmation artistique, notre saison de spectacle.
Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu nous voir, le Globe.
Oui.
C'est quoi un peu les actus du moment, sur quoi vous bossez, c'est quoi les nouvelles ?
En ce moment, on est en train de boucler la saison prochaine, donc on est en train de préparer vraiment la saison 24-25 du coup, et donc préparer... toute l'organisation des spectacles qui vont s'enchaîner l'année prochaine.
Alors, tu es venu nous voir pour parler plus précisément de deux événements à venir. Le premier, c'est la boîte à rêves, une collecte de rêves qui s'organise, que vous organisez en ce moment et qui débouchera sur une restitution dans la Globe Box, qui est le container installé devant le Globe rue Joséphine. C'est quoi l'idée ? D'où c'est venu cette idée-là de travailler autour des rêves des gens, des habitants du quartier, des gens qui viennent au Globe ?
Ouais. Ben, déjà, cette Globe Box, donc donc ce fameux conteneur déposé devant le théâtre, c'est un espace un peu hybride, qui est un conteneur vraiment celui qui va transporter les marchandises sur les bateaux la plupart du temps, qu'on a déposé là et qui nous a servi vraiment d'espace d'expérimentation, qu'on a mis à disposition des artistes, qui ont accueilli des artistes en résidence, qui ont travaillé. On a proposé aussi des sortes de boîtes à indices géantes dans lesquelles on accueillait les passants pour parler des spectacles, et notamment les spectacles jeunes publics avec des petits jeux, des chasses au trésor. Et cette fois-ci, on a eu envie de parler des rêves du quartier, mais plus largement aussi Bordeaux et puis ses alentours. Hein, c'est pas fermé, c'est pas circonspect, mais en tout cas, on aimerait qu'il y ait cette entrée vraiment du quartier, pouvoir parler un peu de l'intime et en même temps de l'universel. Le rêve, voilà, tout le monde rêve. Et l'idée, c'était de mettre en lumière un petit peu cet aspect onirique et de la nuit, voilà, intime.
Et alors, vous dites bien, c'est, donc on dit rêve, mais c'est rêve ou cauchemar, c'est ce à quoi on pense la nuit, quoi. Ça peut être positif, négatif, agréable, désagréable.
Oui, exactement. Rêve, ça va être le mot vraiment générique, mais très largement, en fait, c'est raconter ce qui se passe dans nos divagations nocturnes, sans limite de taille, de récit. Ça peut être un rêve qui fait deux phrases. Ça peut être un rêve beaucoup plus long, et ça peut être aussi bien des cauchemars et des choses parfois immorales ou même inavouables. On récolte vraiment toute cette matière-là qu'on veut justement brute. On veut que les gens nous racontent vraiment mot pour mot ce qu'ils ont vécu, ressenti, tel quel, leur histoire, et nous la retranscrire par la suite dans ce dispositif artistique.
Alors, on va revenir sur comment envoyer nos rêves aujourd'hui, comment vous envoyez nos rêves, mais cette restitution, du coup, vous allez recevoir plein de matières, plein de rêves, plein de matières brutes, comme tu disais. Qu'est-ce que vous allez en faire ensuite, Cassandre ?
Ouais. On se donne jusqu'à la fin mai pour recevoir toute cette matière-là, mais l'idée, c'est de ensuite travailler avec des professionnels, notamment Karine Aketz, compagnie Intérieur Nuit, qui fait du théâtre sonore. Et donc elle va venir enregistrer avec des professionnels, des comédiens et comédiennes, mais aussi des amateurs et amatrices, ces rêves qu'on aura reçus, pour ensuite les donner à écouter dans notre Globe Box, notre container, qui sera un dispositif de son et de lumière pour entendre ces rêves-là et plonger vraiment dans l'univers du rêve de ces personnes qui auront participé. Donc ça, ce sera à partir de septembre 2024, à la rentrée prochaine, et ce, pendant 3 mois. Les horaires d'ouverture ne sont pas encore déterminés, mais il y aura quelqu'un pour accueillir à la Globe Box les personnes à l'intérieur de ce container et donc écouter ces rêves-là.
Très bien. Et Karine Aketz a déjà fait pas mal d'installations de ce type-là à la bibliothèque de Bordeaux, dans pas mal d'endroits. Et c'est vrai que c'est assez chouette avec une installation 3D aussi à chaque fois. Donc on a des sons différents selon l'endroit où on se place dans l'espace.
Ouais, elle a des dispositifs comme ça, des spectacles entiers où on peut s'installer dans des sortes de transats qui sont aménagés de sons, de petites enceintes avec du son en stéréo. C'est très très chouette, c'est une vraie expérience.
Alors pour envoyer les rêves, donc il y a plusieurs moyens. On peut les écrire, on peut les parler, les raconter à l'audio, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de proposer différents moyens et outils pour que les personnes puissent nous restituer leurs rêves de la manière la plus confortable pour eux. Donc, ils peuvent le taper puisqu'ils peuvent nous l'envoyer par mail. Ils peuvent aussi l'enregistrer en vocal parce qu'on peut, recevoir tout ça via WhatsApp. Et on a aussi installé une boîte de collecte, une boîte aux lettres, une boîte à rêves à l'entrée de notre théâtre, donc rue Joséphine, si vous avez plutôt envie de l'écrire de manière manuscrite.
On peut redonner le mail, donc c'est à mediation@globetheatre.net. J'imagine qu'on retrouve ça aussi sur les réseaux et sur votre site internet.
Ouais.
Et pour vous envoyer ça par à l'oral sur WhatsApp, le numéro c'est le 06 08 02 55 15. Ça a déjà commencé ?
Oui, ça a déjà commencé, et ce notamment grâce à notre partenaire, la librairie des Chartrons, qui se situe cours Saint-Louis, qui a elle aussi installé une boîte à rêves et qui se charge d'informer tous les clients de la librairie de bien vouloir déposer un rêve.
Et ça se poursuit jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on peut envoyer ça ?
Jusqu'à la fin mai. On se donne jusqu'à la fin mai pour pouvoir ensuite se laisser le temps d'enregistrer tous ces rêves-là.
Très bien, on peut laisser plusieurs rêves ?
Oui, avec grand plaisir, des rêves qu'on a fait même peut-être étant petit, et des choses qui nous ont marqués. Il n'y a pas de limite dans le temps, il n'y a pas de prescription pour les rêves.
Super, eh ben, on incite nos auditeurs et auditrices à faire ça, et puis à partir de septembre, à se rendre dans la Globe Box pour écouter ce rendu. Alors, le deuxième événement du moment au Globe Théâtre, c'est le spectacle Classe Départ, duquel il va y avoir deux représentations les 2 et 3 mai prochains. Classe Départ, un spectacle écrit et joué par des jeunes de Guyancourt. Alors, c'est où Guyancourt ?
Alors, Guyancourt, c'est en région parisienne. C'est une commune pas loin de Versailles qui accueille donc ces jeunes, mais qui sont un petit peu partout en France finalement. Classe Départ, pardon, c'est le dispositif dans lequel ils sont inscrits pour mettre en œuvre ce projet-là. Et le spectacle s'appelle, vous retrouverez sur notre site, L'Ouest.
Alors, il faut dire peut-être d'abord ce que c'est le dispositif Classe Départ, comment ça fonctionne.
Ouais, c'est un dispositif. Donc là, c'est la Classe Départ 18. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà 18 promos qui ont mis en œuvre ce projet, qui ont participé à Classe Départ. C'est quelque chose qui est porté par la Sauvegarde des Yvelines, une structure qui se situe dans les Yvelines en partenariat avec l'Envol et qui porte donc ce projet-là. En fait, il s'agit d'un projet social et artistique et qui permet à une douzaine de jeunes qui sont inscrits dans le cadre d'un service civique, donc qui sont rémunérés pour une période de 7 mois pour monter un spectacle. Ces jeunes, ils sont donc recrutés comme on recrute des services civiques de manière classique, sur leur volontariat, mais aussi parce que c'est des jeunes qui sont cabossés, qui ont des parcours de vie compliqués, qui sont dans une exclusion sociale, en décrochage scolaire. Ils ont entre 16 et 25 ans, donc parfois vraiment ils sont hors de la sphère scolaire. Mais en tout cas, c'est des jeunes qui ont envie de se reconnecter à la société et qui du coup vont le faire à travers ce projet-là, dans un projet artistique.
Et donc, ça veut dire qu'ils arrivent et il y a déjà un texte qui a écrit quelque chose, ou bien c'est eux-mêmes qui vont écrire le spectacle et qui vont ensuite le jouer ?
Ces jeunes, ils vont être encadrés du coup par une compagnie. Là, en l'occurrence, à Guyancourt, c'est la compagnie Incaoda qui se charge du projet, mais aussi suivre une sorte d'école du spectateur. Donc, ils vont aller voir plein de spectacles. Ils vont aussi avoir des ateliers avec des chorégraphes pour aussi mettre le corps en mouvement. Ils sont suivis aussi par une chargée d'insertion professionnelle. L'idée, c'est vraiment de les accompagner à retrouver un travail. Et donc, du coup, tout se crée avec eux. En effet, la compagnie, les artistes apprennent à connaître les jeunes et inversement. Et là, en l'occurrence, ce texte, il a été écrit avec eux, avec la grande complicité donc, de la compagnie Incaoda qui met en scène ce spectacle et qui considère vraiment ce spectacle comme une création de la compagnie. Donc, il a été écrit après et avec eux.
Et alors, de quoi il parle, ce spectacle L'Ouest ?
Alors, je peux vous lire une petite phrase, peut-être, qui parle du spectacle, et je trouve qu'il résume assez bien. Moi, je ne l'ai pas vu, bien sûr, je le découvrirai aussi au Globe Théâtre. Mais voilà, c'est le dernier saloon avant la frontière, là où se retrouvent les déshérités de la terre, ceux qui n'ont pas de passé à conserver, ceux dont la vie ne pourra exister que dans le futur, et qui, pour ce faire, doivent absolument affronter, dans un dernier duel, leur pire ennemi. Donc moi, ce que j'en ai compris, en tout cas, puisque je n'ai pas vu le spectacle, c'est un peu une sorte de métaphore de ces jeunes qui doivent traverser certaines choses pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes.
Et donc, ils sont combien, une dizaine ?
Ils sont 12.
12 ?
Ouais.
Et ils sont en tournée, quoi, c'est ça, actuellement ?
Alors, ils sont en tournée à Bordeaux. Ils sont en tournée à Bordeaux. Ce qui s'est passé exactement, c'est que donc Johan Lavabre, notre directeur au Globe depuis le mois de septembre, était directeur de la ferme de Belle-et-Bas à Guyancourt, là d'où vient ce projet-là, et a souhaité les accueillir du coup en arrivant à Bordeaux. Et l'idée pour eux, c'est que voilà, il y a cette idée-là de tourner et d'aller montrer ce qu'ils ont fait ailleurs, mais aussi pour nous de pouvoir montrer ce projet-là dans la perspective d'essayer de le mettre en œuvre à Bordeaux, pouvoir voilà monter une classe départ à Bordeaux et porter ce projet-là avec le Globe d'ici quelques mois, années peut-être, si toutefois on arrive à rassembler les partenaires nécessaires pour monter ce projet-là, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul.
Puisque donc, ce que je comprends, c'est que les jeunes, eux, sont volontaires en service civique, donc c'est le financement de l'agence du service civique, mais par contre, il y a tout un tas d'intervenants qui sont là pour les accompagner au montage de ce spectacle et qui, eux, nécessitent des financements importants, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a toute l'équipe artistique, ils sont nombreux, chorégraphes, metteurs en scène. Il y a la chargée d'insertion professionnelle notamment, il y a tous ces jeunes qui sont rémunérés en service civique, et puis il y a l'accueil aussi de tous ces jeunes-là, la coordination du projet. Il faut trouver les moyens en fait, de pouvoir accueillir tout ce projet-là durant 7 mois, donc oui, c'est assez ambitieux.
Très bien. Donc, en tout cas, il faut aller voir les 2 et 3 mai prochains au Globe Théâtre l'Ouest, avant peut-être dans quelques années de voir un spectacle par une classe départ bordelaise, en tout cas qui se serait déroulé ici, un autre spectacle. Merci beaucoup, Cassandre.
Merci.
Peut-être un dernier mot sur un autre spectacle qu'il y aura fin mai au Globe, le spectacle Greux.
Oui, le spectacle Greux au mois de mai, du 27 au 1er juin, là, tout public en tout cas, si vous voulez venir avec vos petits, c'est le 1er juin, le samedi matin à 11h. Il s'agit d'un spectacle à partir de 3 ans. C'est un solo de danse avec une jeune femme qui est costumée, recouverte de poils, de différents tissus, et qui va reprendre des danses un petit peu primitives, animalières, et qui va évoluer donc par différents états de corps qui ressemblent à ceux des animaux pendant 35 minutes. Et donc c'est pour les tout petits à partir de 3 ans.
Et c'est à partir du 27 mai.
Ouais.
Comment on suit toutes les infos, toutes les actus du Globe Théâtre ? Il y a le site internet, il y a des réseaux sociaux, Facebook,
oui, on a le site internet qui va bientôt être actualisé. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, voilà. Ouais.
Merci beaucoup, Cassandre, d'être venue nous voir. Cassandre Nebo du Globe Théâtre, merci à toi.
Merci beaucoup.
Un petit peu d'électro dans le plat de résistance, c'est pas souvent, mais c'est une sortie, s'appelle Première, de Luma G, Pia Concept et Gravlaxt dans le plat de résistance. Et à 12h38, on continue, on prend un peu de distance maintenant, puisqu'on va parler de l'Union européenne, de la construction européenne, et de comment on voit cette Europe depuis l'Est du continent. C'est Gérard Clavet de l'émission Le Guide du Bordeaux Colonial qui a eu l'occasion de rencontrer un enseignant universitaire et journaliste indépendant roumain qui nous parle de son travail de journaliste à l'Est de l'Europe, notamment contre la propagande russe, et de ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine fait à l'idée européenne et à la construction européenne. On écoute ça tout de suite.
Je suis Marine German, lecteur à l'université Ștefan cel Mare de Suceava et journaliste.
Suceava, ça se trouve où en Roumanie?
Se trouve à 45 km de la frontière avec l'Ukraine.
Vous êtes journaliste, vous m'avez dit journaliste indépendant. Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement dans quels organes de presse vous avez travaillé, pour qui?
J'ai travaillé à Radio Ukraine Internationale, dans la section politique, parce que j'enseigne la science politique à Suceava aujourd'hui. Aussi, j'ai fondé et développé des projets indépendants à Tchernivtsi, Centre Média Book Press, c'est un organe de presse en ligne. Nous avons aussi une radio, Radio Tchernivtsi en ligne. Depuis 2022, j'écris des articles pour la presse nationale de Roumanie. J'ai travaillé à Libertate, c'est le plus grand en ce moment. Revue de la Roumanie, et j'écris sur la thématique de la guerre, la situation de sécurité dans l'Europe de l'Est, la vie politique en Russie, parce que je connais la Russie.
Vous connaissez la Russie aussi bien?
Oui. C'est ma passion, la vie politique en Russie, les tendances de la Russie. Je suis participé en roman, bien sûr, à émission de TV à Bucarest sur le sujet de l'Ukraine, de la Russie et des réfugiés de l'Ukraine en Roumanie.
Et aussi, je crois que vous travaillez sur une espèce de chasse aux fake news.
Oui, je crée une fois par semaine un article pour les sujets de fake, désinformation dans la période de la guerre pour la publication Veridica, développée par une communauté de journalistes indépendants de la Bucarest.
Qui s'adresse à qui? Plutôt à l'Ukraine, à la Roumanie, à l'Europe de l'Est en général, au monde peut-être?
Premièrement, c'est la public de Roumanie, parce que notre page est en Roumanie, mais nous avons une page en anglais et nous développons une page en russe.
D'accord.
Et nous avons une idée de promouvoir cette page dans les réseaux très populaire en Russie, en Belarus ou en République de Moldavie, où sont beaucoup de gens qui parlent russe. Bien sûr, ce sont des difficultés, mais c'est notre idée de promouvoir la vérité journalistique de notre point de vue, que nous croyons que est la vérité.
Est-ce que vous diriez que nous sommes aujourd'hui peut-être un moment très fort de construction ou reconstruction de l'Europe, avec ce conflit qui menace clairement l'Europe, mais peut-être que, en même temps, il renforce cette idée, avec des États qui étaient, peut-être du point de vue des Occidentaux, vécus comme des États rentrés tardivement, donc il y avait un statut moindre, comme la Pologne, comme la Roumanie aussi. Et est-ce que, du coup, il n'y a pas comme une revanche de cette Europe de l'Est nouvellement entrée dans l'Union européenne?
Nous observons une Europe dans une grande reconstruction. Pourquoi? Parce que, du mon point de vue, l'Europe a été né pour l'idée de paix. Premièrement, c'est une idée de paix qui a fondé l'Europe. Aujourd'hui, la Commission européenne et les élites politiques de l'Europe discutent absolument sérieusement d'une commissaire pour la sécurité de l'Europe, et pour renforcer tous les aspects militaires ou de sécurité de l'Europe. Et c'est un paradoxe de la construction européenne. Et de ce point de vue, c'est une reconstruction de l'Europe sur une solide fondement stratégique et militaire. Mais l'Ukraine ou la République de Moldavie ou d'autres pays, depuis 10 ou 20 années, espoir à l'Europe. Et pour l'Ukrainienne en ce moment, pour l'Ukrainienne, l'Europe est un symbole politique. L'Ukrainienne, on dit au revoir à les relations de impérialistes de les Russes, on dit au revoir.
Vous avez même utilisé tout à l'heure dans l'entretien un terme très fort,
oui,
qui est celui de d'une démarche décoloniale.
Oui, oui. C'est une démarche décoloniale qui est assumée officiellement à l'Ukraine, parce que nous avons en pleine guerre en Ukraine une loi de décommunisation en Ukraine. Officielle, c'est une loi. Nous avons une tendance de dérussification de l'Ukraine, mais réellement, ce n'est pas un procès de dérussification, c'est un phénomène de décolonisation.
Mm-hmm.
L'histoire de l'Ukraine et l'histoire de Roumanie et l'histoire d'autres pays de l'Est de l'Europe a été écrite à Moscou longtemps. Les narratives historiques, les narratives culturelles dans les États qui aujourd'hui sont post-soviétiques ont une histoire écrite à Moscou de Poutine, à Moscou de Brejnev ou d'autres élites politiques communistes en cette période. Et bien sûr, pendant la grande guerre en Ukraine, en ce moment, il y a des initiatives de revenir à une histoire véridique de l'Ukraine. Qui sont l'Ukrainienne? Ils sont le petit frère de la Russie ou sont une population dominée des différents narratifs de soviétiques ou impériales? Aussi, nous découvrons en 2025 les nouveaux pages des relations entre populations. Les gènes de l'Ukraine et de Roumanie ne savent pas que ces deux pays ont avoir une relation diplomatique en 1917, en 1918. Sont pages ignorées en historiographie de l'Ukraine, par exemple. Et parce que nous avons ces éléments elliptiques dans l'histoire, sont beaucoup de fake news, de désinformation, mm-hmm, qui ont le but de manipuler l'opinion publique dans la mesure possible dans cet espace d'information des pays.
Mm-hmm. Donc, comme dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations, vous êtes en situation de reconstruction, de redécouverte d'une, oui, culture commune. Pour parler de la Roumanie, est-ce que cette décolonisation, cette rupture avec l'Union, oui, oui, soviétique, oui, avec, oui, l'ancienne, oui, histoire, oui, impérialiste, est-ce que vous l'avez menée correctement? Et l'Ukraine, on sait, ça commence à peine, mais est-ce que...
Bien sûr, il y a beaucoup de possibles versions, d'interprétations de l'histoire ou de mmh, découvrir ces pages. Et un grand défi possibles remarques nationalistes, parce que quand nous découvrons une histoire, nous pouvons écrire une histoire très basée pour les principes nationalistes. Et bien sûr, en Ukraine, par exemple, il y a une tendance de décolonisation historique, mais aussi une tendance de présenter les pages de l'histoire d'un point de vue très patriotique, plus patriotique. et sont des extrêmes dans une tendance de décolonisation. Bien sûr, la Roumanie, c'est une autre situation, est membre de l'Union européenne, et les narratives historiques sont plus européens et plus ouvertes pour les narratives européennes classiques. Mais et la Roumanie, et l'Ukraine, et aussi l'Europe, est une situation de découverte, de reconstruction. Je pense que à la fin de cette guerre, nous pouvons parler d'une autre Europe, d'un autre monde, d'une autre Ukraine, possible d'une autre Europe concentrée plus à l'est.
C'est ça. On va déplacer le.
Déplacer à l'est.
Absolument,
oui.
Absolument. Bon, mais je vous remercie beaucoup.
Et vous aussi à vous.
Petite interview improvisée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était Marine German, journaliste et enseignant roumain au micro de Gérard Clabé. Et à presque 12h50 sur la Clé des Ondes, on passe comme ça que je dis aux clés des libertés qui nous sont données aujourd'hui par la libre pensée de Gironde, avec le temps que je retrouve le fichier, avec notamment Esmeralda. Bonjour Esmeralda. Et voilà, après un petit bug, ça va enfin partir.
Bonjour. Aujourd'hui, dans les clés des libertés, la libre pensée avec Jean-Paul va aborder le problème posé par le financement de l'enseignement privé, qui est catholique à 96%. Et dans notre prochaine émission, au mois de mai, nous aborderons le problème posé par la loi de 2004. Commençons tout de suite. L'affaire Stanislas, l'affaire de ce lycée privé catholique, a fait couler beaucoup d'encre.
Effectivement, oui. Cette affaire impliquant une ex-ministre, Coudouvant, a soulevé de nombreuses questions concernant l'enseignement privé confessionnel. Mais c'est tant mieux. Les déclarations d'associations ou d'organisations se sont multipliées avec une question rarement abordée cependant, celle de la loi Debré de 1959.
Mais pourquoi un tel silence ?
Tout simplement parce que la loi Debré permet à l'État de financer des établissements catholiques comme Stanislas. Or, en France, la loi de 1905 s'applique. Il n'y a pas de religion d'État reconnue. Le respect de la loi de séparation et de son article 2 interdit plus généralement tout financement public des cultes. L'État, donc l'impôt, n'a donc pas à financer les institutions scolaires religieuses privées. La loi Debré est donc déjà une violation de la loi de 1905. Et souvenons-nous du serment de Vincennes de 1962. L'effort de la nation doit aller à l'école de la nation.
Et quelles sont les obligations de l'État en matière scolaire ?
Les obligations de l'État dans notre République laïque est de financer le service public qui est identique sur tout le territoire, assurant ainsi égalité des droits. L'école de la République accueillant tout le monde. Ne pas aborder la question du financement laisse entendre que cette loi scélérate, que ni droite ni gauche n'ont jamais remise en cause, serait définitivement installée dans le paysage législatif français. Donc, plus d'exigence de son abrogation et plus d'exigence que les fonds publics soient exclusivement versés à l'école publique laïque.
Mais dans sa mise en œuvre, cette loi Debré a évolué depuis 1959. Qu'en était-il au départ et qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien, en 1959, la loi Debré était faite pour aider l'enseignement privé catholique, alors en recul important, et cette loi a instauré un système de contrat entre l'État et les écoles privées qui le soutenaient. L'État accordait une aide financière publique. Outre les salaires des enseignants, un forfait d'externat est versé aux établissements par l'État. Les collectivités financent les dépenses de fonctionnement. En contrepartie, les programmes devaient être les mêmes que dans l'enseignement public. les diplômes étant délivrés par l'État, qui a le monopole de la collection des grades, l'enseignement catholique ne pouvait pas et ne peut toujours pas délivrer ses propres diplômes. Le catéchisme devenait une option. L'inspection devenait obligatoire. Les faits démontrent la limite de cette loi. D'autres lois, depuis, sont venues la compléter en l'aggravant.
Mais bien peu d'associations, même laïques, bien peu de partis, et ne parlons pas des médias, abordent cette question des fonds publics versés à l'enseignement privé.
En effet, les commentateurs et les politologues se gardent bien de publier des chiffres. Surtout quand l'enseignement public subit des coupes sombres et des suppressions de postes. Nous, laïcs, libres penseurs, nous les publions et régulièrement, et l'affaire Stanislas permet de faire remonter la vérité à la surface. Pour connaître les montants des financements publics, il faut chaque année consulter le budget du ministère de l'Éducation et la loi de finances. Le gouvernement lui-même, d'ailleurs, fournit les chiffres. Pour 2021, voici les montants définitifs fournis par le ministère. 12 825 millions pour les établissements privés sous contrat, 2 235 millions pour les établissements hors contrat, au total 15 milliards 60 millions d'euros. Pour 2024 et pour les seuls premiers et second degrés, c'est 9 milliards 35 millions d'euros. Avec les ajustements pour l'enseignement agricole et le supérieur, le détournement de fonds publics sera de l'ordre de 15 milliards. Bien sûr, il est difficile de chiffrer au plan national les surplus, entre guillemets, versés par les collectivités locales ainsi que le montant de la taxe d'apprentissage. La loi Falloux de 1850 autorise les collectivités à subventionner les collèges et les lycées dans la limite de 10% des dépenses annuelles des établissements. Le forfait est calculé au prorata des frais de scolarité d'un élève du public. Il comporte une part personnelle qui finance les agents non enseignants et une part matérielle qui couvre les frais d'entretien et de chauffage. Seul le coût de la cantine est à la charge des familles. Mais en plus, l'enseignement privé confessionnel n'est pas gratuit. Les familles payent.
Et quel est le statut des personnels enseignants du privé ?
Les 148 000 enseignants sont rémunérés par l'État avec les mêmes grilles indiciaires que le public. Mais ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État, relevant du statut général de la fonction publique. Ils ont un contrat de droit privé. Pour leur retraite, ils ne relèvent pas du code des pensions civiles et militaires. Le diocèse et l'archevêque ont un pouvoir réel. Ils contrôlent notamment la nomination des directeurs des établissements catholiques.
Et quelle est la spécificité des établissements confessionnels sous contrat ?
Oui, un établissement catholique sous contrat est tenu de respecter les programmes nationaux. Mais son projet pédagogique est basé sur la reconnaissance des textes religieux comme l'Évangile. Le catéchisme, la prière et autres activités figurent d'ailleurs en bonne place dans les maquettes de présentation de ces établissements. C'est ce que l'on appelle son caractère propre. Nous nous sommes inquiétés d'ailleurs du projet d'établissement rendu obligatoire dans l'enseignement public par la loi d'orientation du 10 juillet 1989, dite loi Jospin, qui introduisait des normes inspirées du privé dans l'enseignement public.
C'est-à-dire que déjà en 1982, il y avait une tentative du gouvernement Mitterrand, tentative de rapprochement.
Oui, effectivement. Oui. Au début du premier septennat de François Mitterrand, le projet Savary prévoyait une nationalisation de l'enseignement. Dans son exposé des motifs, le projet Savary expliquait notamment, pour le privé, que le projet éducatif est la définition de l'identité de l'établissement, il lui appartient en propre. La mobilisation massive de l'Église et de la droite a fait abandonner le projet. En fait, ils en sont sortis gagnants et continuent de profiter massivement du financement public.
Mais à l'époque, ils ont crié à la nationalisation. L'enseignement privé confessionnel à 96% catholique peut-il être nationalisé ?
Aujourd'hui, certains pensent encore qu'il faut nationaliser. Mais nationaliser l'ensemble des institutions scolaires de France et de Navarre signifierait le faire sur la base non plus d'une institution scolaire laïque, mais dans le cadre d'une institution unifiée. Et on en revient donc au projet Savary. Cela signifierait la pénétration du cléricalisme dans le service public. Nous sommes pour l'enseignement public, mais laïque. Donc, nous ne sommes pas pour la disparition de l'enseignement privé. ce qui serait une interdiction contraire à la loi de 1905, mais nous sommes contre son financement. Un exemple, si je prends ma voiture au lieu des transports publics, c'est mon droit. Mais je ne demande pas à l'État de financer mes déplacements.
Alors, faut-il s'adapter ? 1959, ça fait longtemps. Abandonner ou continuer ce combat ? Est-ce qu'une loi comme la loi Debré peut être abrogée ? Et est-ce que ça ne pose pas d'importants problèmes juridiques ?
Oui, certainement, oui. Mais vous savez, les abandons, capitulations et autres renoncements n'ont conduit qu'au renforcement de l'enseignement privé confessionnel. Les attaques successives des gouvernements conduisent à une certaine forme de privatisation de l'éducation que l'on veut faire éclater, territorialiser et rendre inégalitaire. Un laïc, un républicain authentique, un libre penseur, les organisations se réclamant de la laïcité ne peuvent qu'exiger l'abrogation de tous les textes, les lois, les règlements, les circulaires, qui sont au nombre d'environ 60, qui, depuis 1940, présentent un caractère anti-laïque. Ce qu'a fait une loi peut être défait par une autre loi. Ce n'est qu'une question de volonté politique d'un gouvernement qui entendrait agir pour la défense réelle de la laïcité. Dans un système démocratique, ce que n'est pas la Ve République. La laïcité constitutionnelle exige que ce soit l'État qui exerce ses responsabilités en matière d'instruction publique